Bezod Hashem, aujourd'hui, notre sujet, bien entendu, nous sommes dans ce que nous appelons les Aseret Yemei Tshuva. Petite nuance avec ce qui a été dit, ce ne sont pas les jours qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippourim, mais qui les relient. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans la liaison, dans le lien, et non jamais dans la séparation des choses, dans la différenciation, oui, mais jamais dans la séparation. Car le monde de la séparation est un monde négatif, alors que le monde des différences est un monde qui est adéquat. Par exemple, la Havdalah n'est jamais une séparation entre Shabbat et les jours de la semaine. C'est une différenciation. On n'a pas le droit de dire qu'il sépare Shabbat des jours profanes. Hamavdil, lo hamafri. Donc Hamavdil ben Kodesh Lechol, c'est celui qui sait faire la différenciation entre les deux degrés. Donc nous devons devenir des spécialistes de la différenciation, c'est-à-dire des spécialistes de la délicatesse et donc de la capacité à faire les nuances entre les choses, mais jamais ne séparer les choses. Donc le sujet est en réalité d'une manière collective, d'une manière générale, la teshuvah du collectif Israël, et en même temps, la teshuvah de l'individu d'Israël qui s'inscrit dans la teshuvah du collectif. Et je vais essayer d'être clair, c'est une notion qui est extrêmement élevée, car la teshuvah, nous disent les sages dans la Kabbalah, ne fait pas partie de ce monde. La teshuvah a précédé le monde, c'est ramené dans le Midrash et dans la Gemara de Pesachim à la page 54. Teshuva kadma la'olam. La Teshuva a précédé le monde. Or moi j'ai une question très simple. Si la Teshuva a précédé le monde, le terme précédé n'est pas approprié parce qu'avant le monde il n'y avait pas de temps. Car la création du monde c'est une création de temps. Alors comment est-ce que tu peux me dire que la Teshuva a précédé? Réponse, nous sommes obligés de dire que la Teshuva n'a pas précédé en temps, mais en qualité. Je veux dire par là que la pensée de la création du monde, c'était la Teshuva. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a pensé Teshuva et a créé le monde. C'est une source et une conséquence. Autrement dit, si la source de ce monde, la pensée, l'ADN de ce monde, c'était la Teshuva. C'est ce que les sages nous dévoilent, c'est un grand secret. Ça veut dire que toute la création, normalement, n'a été que pour une seule chose, pour révéler cette pensée qui lui a précédé. Donc le monde sans la Teshuva est un monde qui ne se réalise pas réellement. Puisque la pensée, le plan par lequel le monde fut créé, c'est la Teshuva. Plus que cela, si le monde est une Teshuva qui a précédé, la traduction hébraïque du mot Teshuva est au moins de deux possibilités. Ou bien le retour, ou bien la réponse. Donc si c'est un retour, ça veut dire que nous étions quelque part et nous repartons. On ne peut pas parler de retour si je n'étais pas quelque part. Donc je reviens vers quelque chose. Je reviens vers quoi? Bien tout simplement vers ce que j'étais au départ. Autrement dit, je me suis éloigné de celui que je suis. Donc la Teshuva dans cette forme de traduction n'est qu'un retour à mon identité première, initiale. Deuxième possibilité, c'est la réponse. Et si la Teshuva est une réponse et qu'elle a précédé le monde, ça veut dire que tout ce monde, toute cette création n'est qu'une question. Ça veut dire que la Teshuva, la réponse, a précédé la question. Et effectivement, la réponse est toujours avant la question. C'est pas parce que vous posez une question qu'on cherche à inventer une réponse. Non. Si vous pouvez poser une question, c'est que la réponse existe. Et la bonne question va faire en sorte d'inviter la réponse qui attend depuis longtemps à être dévoilée. Et donc, dans ces deux formes de traduction, nous voyons en réalité que la réponse, ou bien que le retour, que le degré initial était avant même la création. Alors qu'est-ce que c'est que la création? Eh bien, la création, c'est comme dit le Zohar HaKadosh, des lettres noires sur un fond blanc. Comme ça dit le Zohar, HaKadosh Baruch Hu a créé ce monde, Esh Shchora Al Gabe Esh Levana, un feu noir posé sur un feu blanc. Alors, je vous ai donné déjà la réponse. Ce sont en réalité des lettres, parce qu'en réalité, tout ce monde est un monde de lettres. Vous ne pouvez même pas réfléchir ni penser si vous n'avez pas de lettres. C'est par les lettres que vous pouvez penser. C'est-à-dire que même vos pensées sont un ensemble de lettres. Mais les lettres, ce n'est qu'un noircissement d'une partie du blanc. Je vais essayer d'être un petit peu plus simple. Quand vous écrivez un Sefer Torah, que fait le scribe? Eh bien, il a un parchemin tout blanc. Je vous pose une question. Est-ce que le texte qu'il va écrire est déjà dans le parchemin tout blanc? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le scribe? Il ne fait que noircir certaines parties du blanc. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables de lire le blanc tel quel. Donc, il va nous aider à noircir quelques lettres. C'est-à-dire à les habiller, tout simplement. Il leur met des chemises. Seulement là-bas, c'est que des chemises noires. C'est-à-dire que les lettres, obligatoirement, doivent être écrites en noir. Parce que le noir, c'est en réalité du rouge qui, en séchant, est devenu noir, parce qu'il est rempli de fer. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en réalité, c'est comme le sang. Quand vous voyez du sang qui a coagulé, il devient noir. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de fer. Et donc, en réalité, le rouge et le noir sont la même couleur. Et pourquoi je suis obligé d'intervenir avec la couleur rouge? Parce que les sages nous disent que la seule couleur réelle dans ce monde, c'est le rouge. D'ailleurs, quand tu demandes à quelqu'un, vite, sans qu'il réfléchisse, donne-moi une couleur, il va te dire rouge. Et pourquoi il est tellement coloré, ce rouge? C'est la couleur la plus colorée. Je sais un petit peu de quoi je parle. Tout simplement parce qu'il est la source même du sang, qui est la vie, et qui est en réalité la source de l'homme. Adam, c'est Adam, c'est pareil. Issu de la terre Adouma ou Adama. Moralité, nous sommes dans un habillage en noir de certaines parties du blanc. Mais entre nous, sous les lettres noires, il y a encore du blanc. Autour des lettres noires, il y a encore du blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le blanc existait avant les lettres. Et ce blanc-là, en réalité, est la source sur laquelle on va déposer nos lettres, c'est-à-dire on va habiller certaines parties de cet infini qui est blanc. Et quand il finira d'écrire son livre, ce fameux scribe, eh bien, il restera encore du blanc. Et bien avant qu'il commence à écrire, il y a encore quelques parties du parchemin blanc. Ça veut dire que l'infini était bien avant nous, il sera bien après nous, et il est encore à l'intérieur de notre vie, nous sommes déposés en quelque sorte sur l'infini. Très important. Comment est-ce qu'on appelle l'entre-deux? C'est-à-dire que monsieur est une lettre, moi je suis une lettre, monsieur est une lettre, madame est une autre lettre. Est-ce que les lettres dans le Sefer Torah doivent se toucher? Non, si elles se touchent, le livre est pasoul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous est une lettre et on a besoin d'un espace pour pouvoir vivre. Si je me fais étouffer par quelqu'un, même dans un couple, de temps en temps vous allez dans un mariage et le rabbin en plein milieu de la roupa, dit au Khatan et à la Kala, vous savez, chez nous, dans le judaïsme, 1 plus 1 égale 1. Allah istor. Ça veut dire qu'il y a un des deux qui est mort. Dans le couple, c'est faux. La femme doit avoir sa vie, l'homme doit avoir sa vie, et la shrina est entre les deux. Mais jamais l'un n'est avalé dans la vie de l'autre, sinon il n'existe plus. Eh bien, l'entre-deux, comme entre l'homme et la femme, ou comme entre mon ami et moi, il y a toujours ce parchemin blanc. Il y a cet espace blanc. Alors, c'est très simple en hébreu. Comment on dit entre lui et moi? Bein. Bein, il a un féminin. Bina. Ça veut dire que quand vous entendez le terme de Bina, qui en français traduit galvaudé, c'est devenu du discernement, ça ne veut rien dire. En réalité, c'est l'entre-deux. Est-ce que vous êtes capable de lire l'entre-deux? Ou est-ce que vous ne lisez que des lettres? Est-ce que pour voir quelque chose dans ce monde, il faut vous l'habiller? Sans vous peindre la lettre en noir, vous n'êtes pas capable de lire les blancs. Certains de nos sages, oui. Et ça, c'est déjà la Torah des secrets. C'est-à-dire que certains de nos kabbalistes lisent le blanc entre les lettres. Je veux vous le dire d'une autre manière. Ils savent entendre les silences du Rav et pas seulement ses paroles. Quand vous allez à un concert de musique, vous entendez des sons. Mais entre les sons, il y a des silences, des vides. Sinon, ça aurait été une cacophonie. Les vides entre les sons sont aussi importants, sinon plus, que les sons eux-mêmes, les instruments. Et d'ailleurs, quand vous allez à un concert, la seconde qui précède le début de la première note contient, cette seconde, tout le concert. Et quand le concert se termine, quand vous rentrez chez vous et que vous êtes dans la voiture, dans un silence d'après le concert, il continue dans le vide, il n'y a plus de musique. Mais c'est exactement pareil. Un bon élève sait étudier dans les silences de son rav. Et pas seulement lorsque le rav parle. Quand je laisse des vides, quand je laisse des blancs, c'est important. Quel rapport avec notre thème? Eh bien, la teshuvah, c'est le blanc entre les lettres. Et les lettres, c'est en réalité le monde dans lequel nous sommes. Autrement dit, si je veux savoir gérer le monde dans lequel nous sommes, chacun de nous est une lettre. Mais moi, en tant que lettre, je suis posé sur l'infini. Et toi aussi. Et si je ne prends pas conscience de cet état qui m'a précédé, Teshuva Kadma Laolam, je vous ai cité tout à l'heure, la Teshuva a précédé toutes les lettres. Imaginez-vous un Sefer Torah que blanc. Eh bien, c'est ce qu'il y avait avant. C'est ce grand silence qui contenait le tout, sans que le tout soit dessiné en noir. Eh bien, la création, c'est une descente de ce grand tout pour dessiner en noir, pour nous permettre d'attraper quelque chose. Parce que nous, dans ce monde, si ce n'est pas un petit peu coloré, si ce n'est pas un petit peu taché, on ne voit rien. Du blanc sur du blanc, ça ne se voit pas. Eh bien, ce monde-là, c'est une brisure de tout cet infini qui précédait. Vous venez de l'entendre pendant 2 jours de Rosh Hashanah, par le son du chauffard. Vous êtes aperçu que le premier son du chauffard, c'est tout. Il s'arrête parce que sinon il s'étouffe. Mais en réalité, ça veut dire l'infini qui a précédé le monde. C'est le blanc qui a précédé les lettres. Et les lettres, c'est en réalité une brisure de ce blanc. C'est pour ça que le son qui vient après, c'est tout, tout, tout. On fait des arrêts maintenant. On est déjà dans la création. Et là, il y a l'intervention de l'homme qui va prendre tous ces arrêts et qui va tenter de revenir vers le son qui était au départ. Parce qu'à chaque fois qu'on sonne du chauffard, on sonne la dernière sonnerie comme la première. C'est-à-dire un grand tout. C'est comme ça que doit tout se terminer. Donc en réalité, c'est l'histoire de ce monde. Le monde vient d'un grand espace infini, incroyable, incompréhensible par l'homme. Par le chauffard, c'est le son continu. Ensuite, c'est la création du monde, c'est une brisure de cet état de plénitude. Tout, tout, tout. Et l'homme, avec ses petits détails et ses petites actions, va essayer de revenir à ce grand tout. Comment ? Il rassemble tout ce qu'il peut. Tout, 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 tout. Et en réalité, il essaye de revenir à tout. Ça, c'est l'histoire de ce monde. Donc, moralité, vous voyez que ce monde, en réalité, est comme un accouchement. Et là, je vais vous amener dans un voyage que les femmes connaissent un petit peu mieux que les hommes. Lorsque le bébé se trouve à l'intérieur du corps de la maman, il est nourri par la maman, par un cordon ombilical qui est relié directement au bébé. Ce bébé n'a pas encore d'existence à part entière, c'est pour ça qu'on ne compte pas les jours où il était dans le ventre. Quand un bébé est né aujourd'hui, on dit il a un jour. On ne dit pas il a 9 mois plus un jour. Ça veut dire que les jours qui étaient dans le ventre ne comptent pas. C'est bizarre, alors qu'il était déjà un être. Eh bien, quand ce monde, le monde, la création, était dans le ventre de l'éternité, ça ne comptait pas. Dès que le monde est sorti de l'unité divine, maintenant on va donner des lettres, puisque nous parlons en lettres, quelle est la lettre de l'unité? Le Aleph. Comment est-ce que je dis sortir ou la Tseth en hébreu moderne ou bien bar comme en arabe, barra, être en dehors. Or, quel est le mot de la création? Bara. Ça veut dire sortir de quoi? Comment vous écrivez bara? Bar, en dehors, Aleph. Sortir du Aleph. Ça veut dire que le monde est une sortie de l'unité. Ok. Mais si je suis sorti de l'unité, automatiquement je suis jeté où? Dans le pluriel. Ça veut dire que je suis sorti de l'unité. Au minimum, la lettre que je rencontre en premier, c'est laquelle? Le Bet. Donc la Torah va commencer par la lettre Bet Bereshit. Vous comprenez maintenant pourquoi? Ça veut dire que ce monde est un monde de deux, obligatoirement, minimum, du pluriel. Et non seulement je viens de vous dire deux, mais j'ai créé aussi la notion de temps. Parce que si je dois aller de ce degré à celui-ci, j'ai déjà un temps. Donc quelle est la plus petite mesure du temps? Le 2, donc la seconde. En hébreu, shnia, shnai. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Tout est codé dans les lettres. Dans toutes les langages, dans toutes les langues. Second. La deuxième. Mais c'est pas seulement une notion de temps, mais aussi une notion d'espace. Puisque la distance de cette bouteille, de ce point à l'autre point, introduit aussi une notion d'espace. Donc je viens de créer l'espace-temps. Donc la création qui commence par la lettre B, c'est l'espace-temps. Et qu'est-ce que je dois faire moi dans cet espace-temps? Je dois retrouver mon origine. D'où est-ce que je viens? Du Aleph. Donc lorsque le B va vers le Aleph, je viens d'écrire un mot en hébreu. Ba. Kol Israël Yeshlaem Chelek Leolam Ha. Ba. Traduction. Chacun de nous qui faisons partie de ce peuple, nous avons une part dans ce bête qui tente toute sa vie à retrouver le Aleph. Moralité, vous êtes tous, même si vous ne le savez pas, intuitivement, un feu intérieur qui vous pousse à rejoindre l'unité première de laquelle vous êtes sorti. C'est un souvenir dans votre subconscient le plus profond. Comment ça se manifeste réellement? Ah, j'ai envie de respirer, J'en ai marre de ces petites angoisses. J'en ai marre de ce monde découpé. Vous ne vous rendez même pas compte, mais vous savez combien de fois vous respirez à fond? Presque jamais. Jamais vous avez une longue respiration. Ça c'est quand de votre subconscient il vous dit « Reviens vers la source !» En français ça dit « Smallah ». C'est comme ça qu'on parle en français maintenant. Hein? En tout cas le français de demain. Okay? Ça veut dire quoi? Que généralement vous respirez comme ça. Comme le chauffeur, tout. Mais quand on vous dit respire, presque tu as le vertige parce que tu as fait rentrer de l'oxygène, tu as oublié comment on respire. Nous sommes tous angoissés. On ne respire même plus à fond. On a oublié, mais notre subconscient, lui, il a languit cet état de plénitude. Et on a envie d'une seule chose, de le rejoindre. Ça, c'est le Olam Haba. Je reviens. L'infini a accouché de ce monde. Donc ce monde, en réalité, est le fils de l'infini. Comment on dit fils en hébreu? Ben ou Bar. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le fils de Yochai. En hébreu ou en araméen, bra. Bra veut dire le fils de. C'est la même chose, il est en dehors de son père, bara. Autrement dit, ce monde est le fils du monde qui lui a précédé, de cette plénitude. Mais, lorsque la maman a accouché d'un bébé, il n'a plus le même lien. Que fait le médecin immédiatement? Il doit couper le lien, qui était un lien naturel, mais tellement naturel que le bébé n'avait pas de vie à proprement dit. Comment on dit découper en hébreu? Les natek. Nituk, ce sont les mêmes lettres que tinok. Donc le tinok est un découpage de sa maman. Pourquoi faire encore les mêmes lettres? Tikkun, une réparation de ce monde. Ça veut dire le bébé est un tinok qui a subi un nitouk pour faire un tikkun. Maintenant, ce bébé qui vient d'être découpé de sa maman, il est en danger de mort. On est d'accord? Immédiatement. S'il n'a plus son canal de réception, il n'est plus nourri par l'intérieur de la maman, donc il est voué à la mort. Si on laisse le bébé tel quel, au bout de quelques temps, chas v'shalom, c'est fini. On change les caméras de position. Dans la création du monde, c'est pareil. Ce monde créé, la maman ici, c'est Akadosh Baruch Hu, qui a mis au monde ce grand bébé qui s'appelle le monde, l'univers tout entier. Si cet univers est laissé à lui-même, il va mourir. Que fait la bonne maman? Elle revient vers son bébé pour le nourrir, cette fois-ci, par un degré plus élevé, par son sein. Eh bien, Akadosh Baruch Hu fait exactement le même retour vers le bébé qui vient d'être né pour le faire vivre. Donc, je viens de vous raconter le retour de Dieu sur terre. Ça s'appelle la Teshuvah de Dieu. Donc, Dieu fait Teshuvah. Par ce retour vers la vie qu'il vient de créer lui-même. Donc le premier à faire tshuva, c'est qui? Lui-même. Alors maintenant, vous comprenez ce que vous êtes en train de faire quand vous faites tshuva. Vous imitez le retour d'Akadosh Baruch Hu. Et comment vous pouvez l'imiter? Pas en allant vers lui, en faisant en sorte qu'il revienne plus facilement. Donc vous n'allez nulle part, ne vous inquiétez pas, la Teshuvah, ce n'est pas monter vers le ciel, ce n'est pas flotter, ce n'est pas se déconnecter de la vie. C'est ce que malheureusement certaines personnes qui pensent faire Teshuvah font, et en réalité tu ne les trouves plus. Il ne parle plus à papa, il ne parle plus à maman, il n'a plus d'amis, il ne joue plus de la musique, il est devenu dans un monde, tu as l'impression qu'il est fou. Il est fou. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est au contraire, quand tu fais tshuva, tu es censé plus vivre qu'avant. Plus joyeux, plus rigolo, plus souriant, plus ouvert, plus réceptif.
Respirez mieux.
Tu respires mieux. Vous comprenez où est-ce que nous sommes tombés dans une teshuva qui a été mal adaptée par la chrétienté pendant 2000 ans. Donc vous avez des gens qui malheureusement quittent la vie, soi-disant pour faire teshuva. Il n'y a pas plus grande faute que cela. La teshuva, c'est non seulement rester dans la vie, mais faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu, qui est la bonne maman qui revient, eh bien moi je lui facilite le chemin pour qu'elle revienne. C'est-à-dire que je m'ouvre au retour d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est les secrets de la Torah. Ça veut dire un homme normalement constitué, quand il fait teshuva, il a tout simplement changé son être. Au lieu de bloquer le retour de Dieu sur terre, il est maintenant dans l'ouverture, dans la réception, et il accélère le mouvement du retour d'Akadosh Baruch Hu sur terre grâce à ses actions, lui. Et on va étudier aussi quelles sont ces actions qui accélèrent le retour d'Akadosh Baruch Hu sur terre. L'une des actions a été rappelée tout à l'heure. Veshav Hashem et Shevutra. Voilà. Veshav Hashem, traduction littérale en hébreu, en français. Veshav Hashem, Akadosh Baruch Hu revient. Donc il fait tshuva. Et avec, en hébreu, Shevutra, ton retour. Traduction simple. Quand vous êtes revenu sur la terre d'Israël, de votre exil, qui est revenu en réalité dans vos valises ? Akadosh Baruch Hu. Vous l'avez fait revenir par votre retour. C'est le texte qui le dit. Et Rashi, si tu ne le crois pas, va dire sur place, comme s'il prenait la main de chacun, il revient avec lui. Donc en réalité, vous avez amené pas seulement vos familles, mais la présence divine sur terre. Moralité, voilà ce que je vous ai promis de vous dire tout à l'heure. L'une des actions qui accélère le mouvement du retour de Dieu sur terre, c'est lorsqu'un juif vient vivre sur sa terre. Et qu'il arrête de nous raconter des histoires à étudier la Torah dans n'importe quel pays du monde. La place d'un homme d'Israël, c'est tout simplement l'accès à Dieu sur terre. Vous avez envie que Dieu reste à Paris? Allez étudier à Paris. Même dans la plus grande yeshivote. Vous avez envie que Dieu reste à New York? Vous allez étudier à New York. Vous voulez qu'Akadosh Baruch Hu revienne à Mahazir Shrinato Letzion? Eh bien, montre-moi que toi tu reviens parce que moi je reviens dans ta valise. Alors il y a des accélérateurs du retour de Dieu, et malheureusement, il y a des freins. Et vous devez choisir votre camp. Ce n'est pas un séminaire que je suis en train de vous faire, Baruch Hashem, vous êtes là. Mais je parle comme ça quand je vais en France faire des séminaires. Ça veut dire où tu deviens associé au retour d'Akadosh Baruch Hu au monde, ou bien Chas Veshalom, tu l'éloignes. C'est extrême ce que je suis en train de dire. Mais en réalité, c'est la Torah qui le dit, c'est pas moi. Et c'est pour ça que quand vous prenez dans les halachot du Rambam, dans le cinquième chapitre qui parle de la tshuva, il va commencer à vous dire que la tshuva c'est comme ci, que la tshuva c'est comme ça, ta 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 ta. Mais quand on donne des halachot, il faut amener un verset qui corrobore ce que je suis en train de dire. Or, le Rambam, d'après vous, quel verset il ramène? Un seul. Le retour d'Israël sur la terre. Ça veut dire, même le Rambam, dans ses halakhot de Teshuva, il te dit que la première Teshuva, c'est le retour de la nation sur sa terre. Voilà la Teshuva du collectif Israël. Et toi, l'homme individuel, qu'est-ce que tu peux faire? T'associer à ce grand retour, c'est tout. Ou bien, rester à côté et voir le grand retour, et toi tu sors du film, tu es un spectateur au lieu de devenir un acteur de ton histoire. Chas v'shalom. Vous comprenez comment on a dévoyé le sens de la Teshuvah? Parce que pour la plupart d'entre nous, quand on vous dit Teshuvah, c'est quoi? Devenir religieux. Mais où tu as vu ça? Dans quel film? Vous savez en quelle place ça vient, cette Torah appliquée? Ben, badaï, qu'il faut faire les mitzvot et la Torah. Mais à quelle position, dit le prophète? En cinquième position. Car le prophète nous dit qu'on revient d'abord sur la terre. Qu'Akadosh Baruch Hu nous jette de l'eau purifiante. Qu'il va prendre notre cœur de pierre pour le changer en corps de chair. Et après, il va faire encore un degré et il va faire en sorte que nous appliquions ces mitzvot de la Torah. Maintenant, si le prophète il se trompe, ça c'est déjà, chas v'shalom, quelque chose de très grave. Un prophète ne se trompe pas. Parce que c'est Dieu qui parle à travers lui. Nous avons en réalité un programme tout fait. Ne dis jamais à quelqu'un, ne monte pas en Israël tant que tu n'as pas fait tshuva. Non! Monte en Israël! Sauve ta peau! Et après, Be'ezrat Hashem, la terre va faire en sorte de te purifier petit à petit. Ve'kiper admato amo. Inversé. C'est la terre qui te rend kapara, comme Yom Kippour. Vous comprenez maintenant que toutes ces notions doivent être remises en place. On a étudié dans un langage étranger à notre culture normale, comme je suis en train de le faire maintenant, en vous parlant en français. Normalement, ce cours devrait être en hébreu, en la Shona Kodesh, dans le langage du Saint béni soit-il. Avec ce langage, il a créé le monde. Alors pourquoi je suis obligé de parler maintenant dans une langue étrangère? La Shon Zav, l'Oazi, la Shon Avodazara. Bien, tout simplement parce que nous sommes malades de 2000 ans d'exil. Mais c'est pas grave. On est en voie de guérison. Baruch Hashem. Et même si c'est pas vous, c'est vos enfants, et vos petits-enfants, ils comprennent même pas ce que vous allez raconter en français. Ça veut dire que le peuple est en train de guérir de cette longue maladie. Ishtabar chez Molahad. Et cette guérison, en réalité, c'est le rêve de revenir. Parce que rêver en hébreu, chalom, c'est guérir les achlim. C'est la même chose. Et quand est-ce que tu guéris? Beshuv Hashem et Shivat Sion, Aïnu Kecholmim. C'est lorsque Dieu revient à Sion que nous guérissons. Vous comprenez où se place l'essence de la tshuva? Sur laquelle, bien entendu, il faut commencer à appliquer la Torah, les mitzvot, bien entendu, tout. Mais lorsque tu es solide sur ta terre, lorsque tu es en tant que peuple sur ta terre, en tant que nation, c'est pas en tant qu'individu paumé qui fait de la religion. Ça, c'est le genre de silence qui vous laisse rentrer. Vous comprenez maintenant les silences. C'est très important, ces silences. Ça veut dire que la Torah, Akadosh Baruch Hu, nous demande d'abord de réintégrer notre nature. Et notre nature, c'est une nation. Je vous pose une question. Est-ce que Dieu a créé des Juifs? Non. Il nous a créé une nation, d'abord. Et cette nation, c'est pas les ensembles des individus que vous voyez. C'est pas ça, Am Israël. Am Israël, c'est une neshama cosmique. Comme dit Rabbi Akiva dans sa Braïta. Une Braïta, c'est une Mishnah qui n'a pas été introduite dans les Mishnayot. Rabbi Akiva dit, Chaya achat omedet be'emtza harakia. Il y a une forme de vie qui est au plein centre du firmament. Ve Israël, Shmaël, s'appelle Israël. Vechakouk al mitzra Israël. Et sur son front est gravé Israël. Qu'est-ce que c'est que cette forme de vie? Eh bien, c'est notre nature la plus profonde. C'est un grand soleil. Et nous, nous ne sommes que des rayons de ce grand soleil. Ça veut dire que la nation nous a précédés. Elle est bien plus élevée que nous tous réunis. Et comme en mathématiques, qui est plus grand, l'ensemble ou les particules, les détails? L'ensemble est beaucoup plus grand. Même l'ensemble des détails est plus petit que l'ensemble. Vous savez ça, c'est une règle. Mais c'est la même chose. Nous sommes issus de cette forme de vie qui est au centre. Qu'est-ce que c'est au centre? C'est au centre de la pensée divine. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, si on devait lui prêter des notions humaines, on dirait qu'il ne pense à une seule chose toujours, toujours, à Israël. Il a une seule chose en tête, Israël. Et nous ici, nous sommes des individus. Et qu'est-ce que je dois faire moi maintenant face à la teshuvah individuelle? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce grand soleil qui s'appelle Israël, qui est là-bas, dont un des rayons c'est moi? Je vous pose une question d'abord. Est-ce que les rayons du soleil existent? Non. Ça n'a jamais existé. C'est le soleil qui rayonne. Un rayon n'existe pas. Si j'éteignais le soleil, il y a quelque chose? Non. Donc ça n'a jamais existé. Alors qu'est-ce que tu vois en réalité? Une émanation du soleil. Moralité, chacun de nous n'existe pas seul. Il n'existe que parce qu'il est une branche de ce grand soleil Israël. Et je viens de vous donner la réponse. Si moi, en tant qu'individu, je me déconnecte de ce grand soleil, je meurs. C'est ce que nous disons dans la Haggadah de Pessah. Le fiché hotsi et atzmo min haklal, kafar ba'ikar. Tout est faux, c'est fini, il n'y a plus rien. L'exemple le plus simple, c'est un arbre. Les feuilles, elles sont vivantes parce qu'elles sont dans l'arbre. Mais quand tu coupes une feuille de l'arbre, elle est déjà morte, elle est en train de sécher. Au bout de deux jours, tu peux la... Il n'y a plus rien. Pourquoi? Tu l'as coupée de son arbre. C'est pour ça que quand vous prenez une pomme, vous rappelez toujours d'où elle vient. Boré péri à Est. Si je n'ai pas conscience de cela, et je prends la pomme en tant que pomme séparée de son papa ou de sa maman, l'arbre, je suis un mécréant. Israël, qui se détache de sa source collective, ne peut pas vivre. Nous vivons parce que nous sommes reliés à ce grand soleil Israël. Et c'est de ce grand soleil Israël qui s'appelle Kol Israël que nous faisons tout. Est-ce que j'ai une mitzvah, moi, Yoel, individuellement parlant, de mettre les tefilines? Oui ou non? Non. J'ai jamais reçu une mitzvah de mettre les tefilines. Qui a reçu la mitzvah de mettre les tefilines? La nation d'Israël. C'est parce que je fais partie de cette nation que je dois faire les actions de qui? De cette nation à travers ma personne. Vous comprenez? C'est tout à l'envers. Si ce n'était pas comme ça, ça voudrait dire que ce n'est pas le juif qui fait la mitzvah, mais la mitzvah qui fait le juif. J'ai jamais vu une mitzvah qui fait un juif, moi. C'est parce qu'il fait partie de ce peuple qu'il est soumis aux mitzvot. Donc qui a reçu la mitzvah? Le peuple. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. En tant que quoi il nous a donné la Torah? En tant que peuple, pas en tant qu'individu. Donc moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je dois faire? Être fidèle à la Torah que le peuple a reçue, aux mitzvot que le peuple a reçues. Et quand j'applique une mitzvah, quelle est la racine du mot mitzvah? C'est d'être équipage. Je fais partie de l'équipage. C'est tout. Donc par moi, par ce grand soleil, car je suis un rayon efficace, fidèle, qui éclaire mes êtres chers, mes frères, mes sœurs, Israël. Autrement dit, si j'arrive le jour de Yom HaKippourim et que je mets mon talit de telle façon que je ne vois plus personne que mon nombril, je n'ai rien compris à cette journée. Yom HaKippourim, c'est parce que je vous aime. Si je n'ai pas réglé mes affaires avec mon ami, c'est même inutile de parler à Kadosh Baruch Hu. C'est une halakha, mitzvot averot chez ben adam la chavero en yom akipurim echaper. Tu peux prier tout ce que tu veux. Si ton regard vis-à-vis de ton frère Israël n'a pas été arrangé, c'est un problème très grave, mon frère ou ma sœur. Donc il vous reste quelques jours pour téléphoner, pour régler, pour gérer tout ça. Et vous savez quelle est la première prière le soir de Yom HaKippourim? Anachnu mitpalelim al avarianim. Qu'est-ce que c'est les avarianim? Les mécréants, les méchants, les vilains? Non, pas du tout. C'est ceux qui n'ont pas compris que le peuple d'Israël doit avancer. Alors ils sont toujours dans le passé. Le passé, ça se dit avar, donc il est avarian. Et nous, nous avons Be'ezrat Hashem un regard optimiste sur l'avenir, malgré les difficultés, parce que nous savons que nous venons de l'infini. C'est l'infini qui nous a créés, qui nous a accouchés. Et nous sommes des vecteurs pour faire descendre sa lumière dans ce monde, chacun de nous. Donc je vous pose une question très simple, est-ce que vous voulez devenir associé à ce mouvement de retour de Dieu sur la terre, c'est tout. Quelqu'un qui fait ça, il s'appelle un sadique. C'est tout. Alors dis-moi comment on fait. D'accord, il faut venir à la yeshiva, on va étudier.
Comme ça.
Il n'y a que les femmes qui posent ce genre de questions. Sarlé. Vous avez raison, madame. C'est exactement ce qu'il faut faire. Moralité, mettez-vous bien en tête que vous avez déjà entamé la plus grande des teshuvot en revenant sur cette terre. Maintenant, il faut vous mettre juste sous le robinet du retour d'Akadosh Baruch Hu sur terre pour jouer le même rôle que lui à votre niveau. Chacun à son niveau. Moi, je fais un effort. J'ai fait quelques 150 km pour venir. Quel ce soir, par exemple. Et hier, j'étais à Eli. Et avant-hier, j'étais là-bas. Et demain, je suis à Ra'anana. Et le... Quel? J'essaye de faire ce que je peux en tant qu'homme. Et chacun de nous doit faire ce qu'il peut. Parce qu'on ne peut pas vous demander est-ce que tu as été un grand sadique, est-ce que tu as été un petit sadique. C'est pas ça la question. Est-ce que tu étais toi? Ça veut dire on va me mettre face à Yoël, le vrai, l'initial, le modèle. Ce modèle-là, il est toujours en face devant Akadosh Baruch Hu. Et après, on va mettre le Yoël d'ici à côté du Yoël de là-bas.
Marche à l'ombre, alors.
Et on va comparer les deux Yoël. Vous comprenez maintenant la difficulté? Qui vous juge réellement? Vous-même. On vous place selon vos capacités initiales, comment tu étais et comment tu es devenu. Et la différence entre les deux, Chas v'Shalom, c'est sortir, c'est dévier. En hébreu, Stia. Bien, comme quelqu'un qui sait nager en hébreu, Sachian, on l'appelle. Il est sorti, on l'appelle Sachian. Choté, Chatian. Roquet, Dragdan. Bien, sauter, un déviateur, Satan. Donc le Satan, c'est pas un ange avec une fourche du Club Med. C'est tout simplement la force de déviation entre ce que tu étais dans le modèle initial et ton paraître,
le clown,
entre l'être et le paraître, exactement. Sur ce, je vous laisse la parole, comme convenu. Il y a beaucoup de choses à dire, mais si vous avez des questions.
Qui peut poser une question?
Si je peux, Charles, avec ta permission.
Oui.
On dit que l'infini, c'est le trou noir, mais en fait, c'est le trou blanc. puisque c'est sur le noir qu'on imprime les choses.
Ce que l'on dit, l'infini, le trou noir, le trou blanc, ce sont des expressions humaines. Pour nous, le noir, c'est l'incapacité à comprendre les choses. Alors, on nous peint en noir. Mais en réalité, tout est blanc. Tout est l'infini, tout est lumière. Vous savez, si vous prenez, par exemple, un grand télescope, et vous prenez un papier, mais en film, vous savez, transparent, et vous regardez le ciel avec ce télescope, et vous mettez ce papier sur l'œil du télescope. Et je vous demande avec un feutre de faire un point sur chaque étoile que vous voyez. Eh bien, vous allez faire un point ici, hein, vous voyez par exemple 10 étoiles. Ok ? Je vais ajouter une adacha, une lentille plus forte maintenant, ce télescope. Je vais voir des étoiles que je ne voyais pas avant. Je vais prendre un deuxième film, je vais dessiner de nouvelles étoiles qui n'étaient pas visibles dans la première lentille. Je fais encore une troisième lentille, quatrième lentille, finalement, tout est blanc. L'infini est rempli d'étoiles, on ne voit rien du tout. Ça veut dire qu'en réalité, tout est lumière, mais toujours tout est relatif. Par exemple, ce verre est à moitié plein ou à moitié vide? Alors les sages parlent de moitié plein. C'est pour ça que kos chatsi melea, car c'est féminin, verre, c'est les initiales du mot chacham. Ça veut dire qu'il voit toujours le verre à moitié plein, jamais à moitié vide. Donc arrêtez de pleurer sur ce que vous n'avez pas. Réjouissez-vous sur ce que vous avez. Vous allez voir que vous allez danser. Ok.
Question.
Il y a d'autres questions?
Comment parler après vous?
C'est une question.
Si tu veux avoir la chouva, il faut poser la question.
Pardon, Myriam.
Tu parles d'un... On doit ressembler à un modèle qui vient de là au microscope. Parce que le modèle doit être tellement parfait qu'on est tellement parfait.
Donc je ne te pose pas de questions. Comme disait l'autre, c'est toi et nage. Avance. Avancez. Il ne faut pas trop se poser de questions. Il y a des gens qui, pour traverser une rue, ils passent. Il y a d'autres qui sont en train de réfléchir parce qu'ils sont tellement intelligents. Mais j'ai appris à l'école que pour traverser cette rue, il faut que je traverse la moitié. Mais comme la moitié, elle a une moitié de la moitié, donc je dois traverser le quart. Mais la moitié du quart, c'est un huitième. Et ainsi de suite. Donc finalement, le type, il réfléchit tellement. Il y a 200 qui ont déjà passé, lui il est encore de l'autre côté. Donc il faut avancer.
Madame,
Ken.
Je voudrais demander quel comportement doit-on avoir avec ces gens qui pratiquent la religion comme ça, et que nous, on fait la via, la fait où elle est ou elle n'est pas, quel comportement avoir avec...
Un comportement d'amour, avant tout. Ce sont nos frères, et nous sommes leurs frères. Et dans le judaïsme, il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de tendances. C'est pas grave.
C'est la morale qui se greffe.
Si vous voyez quelqu'un qui, entre guillemets, n'a pas la morale, c'est pas un religieux. Même s'il est déguisé. D'accord ? Mais je peux vous dire la même chose pour ceux qui viennent de l'autre côté. Donc il ne faut pas, chas v'shalom, négliger aucune personne. Nous avons des tendances. Nous avons exactement comme les membres de mon corps. Ça, c'est un problème. Vous, vous êtes le petit doigt, moi je suis un pouce. On travaille ensemble? Oui, pour la même main et pour le même entité. C'est tout. On n'a jamais vu une femme dans la cuisine qui, en coupant une tomate, qui s'est coupé le doigt. Qu'est-ce qu'elle fait? La main gauche, elle se dit, comme ça tu m'as fait, moi aussi je te coupe. Elle s'est coupée la main droite. Ça existe, ça? Non. Ça veut dire que quand la main droite, sans faire exprès, a coupé la main gauche, tout le corps va se mettre pour la main gauche pour le soigner. Et bien, c'est exactement comme ça qu'on doit être dans le peuple d'Israël.
Je pense que c'est passé pendant ces deux dernières années.
Exactement.
J'ai une question, Joël. Une question par rapport à la tolérance de l'autre.
Okay.
C'est dans l'exposé, où est le nom juif?
Le nom juif est un nom déjà qui a été en réalité complètement tordu. Même quand je dis le mot juif, c'est déjà faux. Vous croyez que nous sommes juifs ? Parce que juif, c'est quoi ? C'est Yehuda, donc Yehudi. Ça veut dire que c'est un douzième du peuple d'Israël. Il y a Shimon, Naphtali, Asher, Gad, Yosef,
Ephraim.
Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu as pris en réalité un douzième du peuple d'Israël tout entier, tu t'appelles maintenant Yehudi ? Non ! C'est pas un judaïsme fractal, comme dirait mon copain. Arrête ! Donc comment est-ce qu'il faut vous appeler ? Israël. Israël. Nous sommes Israël. C'est ça, c'est tout.
Non, mais en France, on est
israélite.
C'est
gentil.
Là-bas, c'est juste pour ne pas dire juif, machin, ils n'aiment pas les trucs. Mais... Nachon. Nachon, mais c'est Israël. Nachon. Le peuple d'Israël. Am Israël, Am Bene Israël, comme la Torah nous décrit. Quand on était en exil, on est devenu Ish Yehudi Aya Beshushan Abira.
Pourquoi on dit de nous un état juif alors?
C'est faux. C'est l'état d'Israël. Parce qu'encore une fois, on a complètement déformé beaucoup de choses. Je viens de vous prouver par A plus B combien de choses nous avons déformées de l'état initial. Donc la teshuva, c'est de revenir à l'état initial. L'état initial, c'est la vie. Je vais juste lire un petit passage du Rav Kook avec votre permission qui va un tout petit peu renforcer ce que je viens de dire dans Orot HaTshuva. J'espère que je vais le retrouver. Je l'ai souligné juste avant de venir. Siman Tov le Tshuva Me'oula. Comment est-ce que je peux savoir si tu fais Tshuva et qu'elle est bonne? Korat Ruach Pnimit. Tu es tranquille dedans. Tu ne deviens pas nerveux, malade, énervé de tout. Calme-toi. Voilà la tshuva. C'est-à-dire tu reviens à la vie, tu rigoles, tu souris, tu es heureux. Tu n'es pas en train de devenir fou à courir et à bousculer des femmes enceintes parce que tu as un chiour. Ça ne veut rien dire tout ça. Vous avez parlé tout à l'heure de Eresh Kadma la Torah. Mais ça fait partie de ça. La Torah, c'est... toute une vie, c'est une harmonie de vie.
C'est grave, parce qu'il y a une très forte déformation dans ce
pays. Alors Baruch HaShem, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Et dans d'autres cours. Léat, le judaïsme, encore une fois, je suis obligé de parler en français. Okay. Le judaïsme est en train de se guérir, de guérir de sa galoute. Et tout doucement. On est en voie de guérison. Ça ne prend pas un jour. On est encore comme une petite fille, comme dit Shir HaShirim, Achot Lanu Ktana. C'est ce qu'on a dit, la première prière de Rosh Hashanah. Achot Ketana. Une petite sœur. Qu'est-ce que c'est la petite sœur? Eh bien, il faut qu'elle grandisse. Pour l'instant, ce n'est pas une femme. Alors, je vais la jeter. Non! Accompagne-la, mon frère. Pour qu'elle grandisse, pour qu'elle devienne une femme. Mais c'est comme l'État d'Israël. Ouais, ils n'ont rien compris. Regarde comment ils font. Non! Nous sommes là pour aider ce petit état, c'est rien du tout, 65 ans. Aide-le à grandir au lieu de cracher toute la journée. Qu'est-ce que c'est que cette ingratitude? Chas v'shalom. Tout le monde essaye de faire le mieux. Des fois ça marche, des fois ça marche moins. Mais arrêtons, c'est nous, c'est notre corps national. C'est l'histoire de tout à l'heure. L'autre, elle a coupé la main gauche, elle coupe la main droite, mais alors qu'il finit plus, tu te suicides. Qu'est-ce?
Il y a André là.
André d'abord.
Moi, je voudrais que vous nous expliquiez quelle place occupe la pratique religieuse dans la Torah. Est-ce que, parce qu'on est pratiquant, c'est très important, c'est plus important que de pratiquer une Torah comme vous venez de nous expliquer, à savoir participer à la vie, avoir, comme vous disiez...
C'est la même chose, ça va ensemble.
«
Je ne vois pas pourquoi il faut séparer la pratique de la Torah de la vie. » Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah, « Vachai Bahem » et toutes les choses négatives, « Chas v'Shalom » on l'a vu il y a deux semaines dans la paracha, « Tachat asher avad et et Hashem »« Lo avad et Hashem »« Mitzimcha ou betoub levav » Quand tu fais ce que tu fais en tant que religieux, mais tu n'es pas heureux de ce que tu fais, C'est très grave. Ça veut dire que la Torah et les mitzvot, bien entendu, qu'il faut les faire. C'est obligatoire. Mais c'est une suite logique de la vie. C'est dans la vie, dans le cheminement normal de la vie. Faire la Torah, c'est pas sortir de la vie. C'est pas ça, la Torah. Il y a des gens qui ont tellement exagéré cette sortie de la vie pour faire la Torah qu'ils sont devenus chrétiens. N'oubliez pas que leur chrétienté sort du judaïsme. Donc la Torah, c'est la vie. Vous savez comment ça s'appelle la Torah? Et chaim hi la machazikim ba. Vetomchea meushar. La Torah est un arbre de vie, mais pas un arbre de vie. Ça aussi, c'est des traductions en français. L'arbre, c'est le masculin de Issa. Un conseil de vie. J'allais dire un concept de vie. Mais ton frère, si tu es réellement dans la Torah, comment je peux le voir chez toi? Meusha, tu es quelqu'un d'heureux. Et tous ceux qui sont à côté de toi le voient. Vous savez, c'est quelque chose de très naturel. Hein. Si je suis quelqu'un qui génère le bonheur, en français on dit solaire, eh bien, tout le monde se rapproche. Mais si je suis quelqu'un de lunatique, ou lunaire, il y a un problème. Un jour je t'embrasse, le autre jour je suis neuf, l'autre truc. Tu peux pas vivre avec quelqu'un comme ça. Eh bien, c'est la même chose dans la vie, c'est tout. On va avec les gens heureux, avec les gens qui ont la forme, avec les gens rigolos, avec les gens qui nous font rire. Et à chaque fois qu'il y a un mariage, je dis, ouh, je vais m'asseoir à côté de lui, celui-là, là, il va encore me pourrir la soirée. Non, mais c'est la même chose dans la vie, Rabotai, c'est tout. Même dans la Torah, allez étudier là où vous sortez vivant du cours. Pas en dépression.
Jacqueline.
Alors, nouvelle Olé Khadash,
Léonard.
On est Khadash. Bien sûr, nous parlons français, donc on m'explique à chaque fois.
Bienvenue.
J'apprécie d'autant plus votre conférence de ce soir que vous êtes peintre, que le blanc, c'est la mixité, la totalité des couleurs, et que vous avez bien défini en face le rouge et le noir, deux couleurs opposées, une troisième chose, qui permettent de trouver un équilibre de vie dans cette tchouba que nous essayons de faire. Et je vous apprécie.
Merci beaucoup, monsieur. Je vous souhaite une bonne alia et à tous colorés. Les adhérents qui soient pleines de nuances, belles, à respirer et parfumées de bonheur.
Une dernière question. Eh bien non.
Comment se situe par rapport au rabbi et ce qu'il le développe? Parce que pour lui,
quel rabbi?
Il n'est pas indispensable. Le rabbi est tout ses fans, comme on va dire. S'il développe qu'il n'est pas absolument, il n'est même pas recommandé d'aller vivre en Israël, mais d'accomplir une mission, un circuit, enfin, vous la connaissez sûrement. Ça,
mais pourquoi vous demandez à moi quelque chose que vous devez demander aux autres? Pourquoi vous voulez me mettre en porte-à-faux?
Non,
Ras Vechalom. Je ne juge personne, Ras Vechalom. J'ai beaucoup de respect. Moi-même, j'ai été voir le rabbi de Lubavitch. J'ai reçu une bracha de lui, de monter en Israël, de me marier. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Moi, j'ai des références avec des grands de ce monde. Et je vais selon mes grands de ce monde. C'est-à-dire, Baruch HaShem, on n'a pas des petits rabbins et un grand rabbin en face. Baba Saleh Alav HaShalom disait à tout le monde qu'il fallait venir. Le Rav Kook disait que c'était l'essentiel de notre Teshuvah. Tous les rabbinim, le Ramban a quitté sa femme et ses enfants pour venir en Israël. Et je peux vous citer jusqu'à demain matin.
Okay. Mais moi, je vous pose la question parce que justement, je suis en train de faire ce là.
Okay.
En ce sens que je m'inquiète pour vous.
Pour alors moi, je vous donne un conseil. C'est Bezrat Hashem de développer une Torah avec des références et avec beaucoup d'amour, d'aller même dans des endroits et parler avec ce genre de personnes qui font partie de notre peuple. Oui. Et d'essayer de discuter pour essayer d'arriver à une lumière. J'ai beaucoup d'amis qui sont Chabad, Moi-même, j'ai étudié Baruch HaShem Ba'al HaTanya pendant des années. Okay, ça ne change rien du tout. Ça veut dire que j'essaye, avec des références, de parler à mon frère d'Israël, et tout doucement, la lumière sort et jaillit. Et ça, c'est chez Toda Rabba.
Et
on
va
Toda Rabba.
Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de...
Jean-Paul, tu marques Lise,
j'invite pour le
site radio.fr.
Il y a pas mal de cours là-dedans. On est en train d'organiser.
Alors mon beau-frère vient aussi d'accord.
Sur internet, il y a Oumarpon Meir ou radioel.com. Toda Rabba, Shalom, Mahani Makoba.
Avec vous.
J'ai vu cette vidéo de Mosfac dans une galerie sur
Mais elle, c'est plutôt... Ça va, c'est ouvert, c'est ouvert.